Bienvenue à tout le monde à BPM Sport. Vous êtes à l'antenne de la game avec Arnaud Gasconadon et Arnaud Pepperall. Avant de rentrer dans notre show, parce qu'on a un gros show qui s'en vient à partir de 9h30, on a un invité aussi que j'ai bien hâte de vous faire découvrir vers 10h15. J'ai quelques sujets dont je veux absolument parler avant de me rendre jusque-là, donc à 9h30, ne manquez pas ça. Mais avant de rentrer dans le nerf de la guerre du show, c'est une semaine de tennis au Canada. On s'en va tout de suite rejoindre les gars du podcast sur la ligne, Alex Régimbal et Hugues Léger. Les gars, la balle est dans votre camp. Tiens, c'est pas pire ça, hein?
Ben, merci beaucoup, Arnaud. T'es bien gentil et bon show dans une trentaine de minutes. Alex Régimbal en compagnie de Hugues Léger. Bienvenue à cette présentation du Café OBN présenté par Nespresso. Hugues, comment vas-tu? T'es-tu remis de tes émotions de la journée d'hier? Parce que Leila Fernandez nous a fait vivre un moment qu'on va se rappeler pour un bon petit bout.
Ouais, c'était une de ces soirées magiques au stade IGA. J'ai eu des flashbacks des soirées Chapovalov, Nadal, Simon Larose, Gustavo Kuerten, où un favori local vient gagner contre un des joueurs mieux classés. Il y avait ce genre d'ambiance là hier, même si c'était, le match n'avait pas la même signification que Chapovalov, Nadal par exemple, parce que Nadal était deuxième mondial à l'époque. Chapovalov était encore en progression, un peu inconnu encore du grand public. Mais hier, cette magie, cette communion entre Leila Fernandez et la foule était quand même belle à voir. Mais j'ai été surtout impressionné par la qualité de jeu de Leila Fernandez, son niveau de confiance, de réussite sur des points importants. C'était une de ces soirées magiques hier soir.
Ouais, ben c'est ça. On a vraiment vécu des moments absolument hallucinants. C'est quoi ton analyse de ce match-là, toi?
Mon analyse, c'est qu'elle peut rivaliser avec des top 15. Je disais qu'il lui fallait une grande performance à ce niveau-là pour relancer sa saison. Rappelons que Leila est à 88e au début de la semaine. Elle se retrouve autour de la 75e place ce matin. Donc, elle a fait un gros bond. Mais elle devait aller chercher une performance qu'elle a pas eue depuis plus d'un an. Donc, battre une top 20, ça faisait très longtemps pour Leila. Elle a eu des matchs serrés contre Caro Garcia à deux reprises, mais des matchs qu'elle réussissait pas à gagner. Et hier, elle avait non seulement la confiance, la bonne attitude extrêmement positive du début à la fin du match, mais elle tentait les gros coups sur les points importants et elle les gagnait. Et c'est ça qui est difficile au tennis et elle le fait de manière admirable. Et on voit que ses plans de match sont bien construits, elles sont surtout bien exécutées en ce moment. Leila m'impressionne beaucoup cette semaine.
Et le caractère qu'elle a eu dans ce match-là, ben oui. Parce que elle a fait face à... En fait, elle a eu une balle de match, elle n'a pas été capable de concrétiser, brisée par la suite, par la deuxième manche, le travail est à recommencer. Oui. Ça aurait pu créer du dommage, cette situation-là.
Moi, j'ai eu très peur, je vous l'ai dit, durant le broadcast hier. Donc, à la fin du deuxième set, elle a une balle de match sur le service d'Adan Maia. Adan Maia qui avait beaucoup de difficultés avec son service hier, spécialement en deuxième balle. Donc, Leila pouvait attaquer assez souvent la deuxième balle de Béatrice Adan Maia. Donc, début de troisième set, je me disais dans quel état d'esprit elle sera. Et c'est là que la foule l'a portée aussi. Mm-hmm. Donc, elle a très rapidement gagné son service. Donc, elle s'est reconcentrée très vite. Elle en a parlé en conférence de presse aussi hier soir pour reprendre l'ascendant et briser au bon moment pour finalement conclure de belle manière 6-3, mais elle a fait, c'est une victoire avec panache pour Leila Fernandez qui me donne beaucoup d'espoir pour le reste de la saison.
Ben ouais, on parlait d'une possible relance, ce sera peut-être le cas. Tu parlais de sa conférence de presse, ben, on en a un extrait à vous présenter, je vous propose de l'écouter.
Oui, c'est mon match préféré, spécialement parce que c'est un match difficile. L'année passée, j'ai joué contre Bea, deuxième ronde à Toronto, et j'ai perdu ce match-là. Aujourd'hui, j'ai pu prendre ma revanche, alors ça fait un peu du bien. mais aussi, je pense, de jouer en avant d'une foule complète, c'est un privilège. Alors, de pouvoir gagner à la maison en avant d'une foule complète, ça me motive encore plus pour le prochain match et les prochains tournois. Et c'est un moment très spécial pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné deux matchs de suite. Alors de pouvoir le faire ici à la maison, ça aide.
Question over here on the right.
Eugénie, le joueur en qualification, as-tu des chances que tu lâches un petit message que tu vas avoir un scouting report un peu plus important?
Peut-être, mais j'ai beaucoup de confiance dans mon équipe. Je suis sûre que mes entraîneurs vont recevoir le report et je vais avoir leur confiance dans eux, puis je vais essayer d'exécuter mon plan.
Mais qu'est-ce que la victoire d'aujourd'hui représente pour toi? Puis est-ce que tu sens que c'est peut-être une relance pour ta saison, ces deux victoires consécutives-là?
Bon, j'espère que oui, ça va être une relance dans ma saison, mais c'est aujourd'hui la victoire contre une joueuse de top 20, c'est très spécial parce que ça fait plus d'un an que je gagne pas contre une joueuse de haut calibre comme elle, mais je pense tout le travail que je suis en train de faire les dernières années, finalement, je peux le montrer dans un match. J'ai pu exécuter mon plan, j'ai pu exécuter mon jeu, puis juste de m'amuser dans le cours.
Alors, Lélani Fernandez, qui était très contente de sa victoire, elle a dit, c'est vraiment ma victoire préférée, parce que la question, c'est, on lui avait demandé sur le terrain, est-ce que c'est une des grandes victoires? Elle a dit, oui, je pense que c'est ma victoire préférée dans ma carrière. On lui a redemandé à froid, ouais. Une heure après la victoire, voire après les émotions, elle dit, oh, oui, c'est vraiment ma victoire préférée. C'est une belle revanche, hein, parce que c'est elle, Béatrice Adadmaya, qui l'avait vaincue l'année passée à ce même tournoi, on en avait parlé.
Et Adadmaya, Alex, finaliste à Toronto l'an passé quand même.
Exact, exact. Et d'ailleurs, ça sera coûteux en termes de classement pour Béatrice Adadmaya. Elle risque de perdre quelques rangs au classement. Et Hugues, on en a parlé hier dans l'émission d'avant-match. La dernière fois que Leila Fernandez avait battu Béatrice Adadmaya dans un tournoi, qu'est-ce qui est arrivé?
Elle avait gagné. C'était à Monterrey, au Mexique.
Elle avait gagné le tournoi.
Exactement. Mais attention, on peut pas faire autrement que regarder un peu en avant. Et je regarde la portion du tableau de Leila et je vois la première mondiale, Iga Świątek, en rencontre de quart de finale potentielle. Je veux pas aller trop loin. Daniel Collins, déjà, c'est une grosse commande ce soir, mais je pense que Leila peut le faire.
Ouais, ben effectivement, c'est une très grosse commande, Danielle Collins. Est-ce que la fatigue jouera un rôle dans ce match-là? Parce que bon, il faut rappeler que elle a joué les qualifications. Danielle Collins, c'est d'ailleurs elle qui avait sorti Eugénie Bouchard. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Leila si elle allait jouer. Il a lâché un petit texto pour avoir des informations sur son jeu. Elle a joué deux matchs de plus déjà. Elle a joué Svitolina et Sakkari, deux excellents joueurs. Est-ce que ça peut être un facteur selon toi?
Je pense que oui. Collins sera à son cinquième match en 6 jours. C'est beaucoup de tennis qu'elle enchaîne. Encore une fois, elle est issue des qualifications. C'est pas une joueuse qui est favorite du tournoi. Donc, elle aussi a dû livrer des performances quand même. Et je reviens au match contre Eugénie. Elle a quand même pris un 6-1 au deuxième set contre Eugénie. Un score un peu bizarre, on s'en rappelle. 6-1, 1-6, 6-1. Victoire de Danielle Collins. Mais elle a quand même déployé beaucoup d'énergie pour se rendre où elle est. Donc, encore une fois, je pense que c'est un facteur qui peut influencer le résultat du match de ce soir.
C'est une fille qui a quand même des moments forts sur le circuit de WTA, Danielle Collins. Elle a deux titres sur le circuit en CT en 2021, mais surtout une finale à l'Omnium d'Australie. Il n'y a vraiment pas si longtemps, c'était l'année passée, en 2022, alors que Ashley Barty l'avait emportée. Alors, c'est quand même une finaliste de grand chelem qu'elle est là, va avoir devant elle.
Et rappelons-le, elle a battu Elina Svitolina et Maria Sakkari quand même cette semaine.
Voilà.
Donc Collins est en forme.
Voilà. Alors, ce sera intéressant de voir ce match-là. D'ailleurs, il sera présenté sur les ondes de BPM Sport dès ce soir. C'est le premier match de la soirée. Alors, on sera en direct avec vous, Hugues, moi et Anthony Marcotte. Dans les autres éléments à surveiller à Montréal, rapidement, on gardait un œil sur Gabriela Dabrowski en double. C'est une des meilleures joueuses de double au monde. Elle a été sortie du tournoi. Par contre, il reste encore une paire canadienne. Carole Jao et Marina Sakusic sont encore en vie. On verra qu'est-ce que ça va donner. On va les garder du coin de l'œil. Mais l'autre histoire qu'on suivait, c'était celle de Caroline Wozniacki, qui après une bonne performance, alors qu'elle effectuait un retour au jeu après plusieurs années sans compétition, nous avait impressionné lors de son premier match. Hier, elle avait un véritable défi sur les bras contre Vondrousova et la championne de Wimbledon a été la maître sur le terrain.
Mais je pense que Wozniacki peut quand même sortir de ce tournoi-là avec confiance que son retour est réussi. Elle passe un premier tour de belle façon. Elle pousse la championne de Wimbledon 2023 à un 7-5 au deuxième set hier. Pour Wozniacki, c'est OK, je suis prêt à revenir sur le circuit, je suis prêt à être compétitive, donc c'est un retour réussi. Et quel bonheur de la revoir, comme la réception qu'elle a eue de la foule était exceptionnelle.
Et justement, on peut l'entendre, elle avait des commentaires après sa rencontre.
Yeah, it was a tough match today. Obviously, didn't go the way I'd hoped, but at the end of the day, you know, I think there's a lot of positives I can bring with me. I think in periods I played very well, and then in others I made a few too many on first errors, but all in all, you know, I'm going in the right direction. And I think this is to be expected after not having played a lot of matches in a long time. Well, there's a couple of things I need to work on, but again, all in all, you know, everything is going to come with playing more matches and just getting out there. And so at the end of the day, I'm happy with having two matches under my belt here and getting some practice in Cincinnati and then played a tournament there. I think it's going to be good for me. I actually felt pretty good this morning. Got a nice little lay-in and slept in for a little bit. And then, you know, obviously as you're playing another match today, you can feel the one from yesterday a little bit. But all in all, I think everything into consideration, I think it was pretty good.
Alors, retour très satisfaisant pour Caroline Wozniacki, c'est ce qu'on doit retenir. Elle a aussi confirmé qu'elle va aller pratiquer à Cincinnati, jouer Cincinnati. Alors, oui. Bon, elle est très satisfaite de son retour et je pense qu'elle a convaincu beaucoup de monde sur le terrain. On va faire une courte pause. Vous écoutez cette émission spéciale du Café OBN présentée par Nespresso. Et au retour, on va aller parler à Nicolas Richard parce qu'on va parler de ce qui s'est passé à Toronto.
BPM Sport, en direct de l'Omnium Banque Nationale, présenté par Rogers.
De retour au Café OBN, présenté par Nespresso. C'est cette édition du jeudi. On est au troisième tour. Demain, ce sera les quarts de finale à l'Omnium Banque Nationale. Hugues, on va aller faire un tour à Toronto pour aller rejoindre le collègue Nicolas Richard. Nico, comment te portes-tu?
Ça va bien, vous autres?
Oh, ben ça va très bien, ça va très bien. Écoute, on va commencer avec Milos Raonic, si tu le veux bien. Tu l'as vu jouer contre Taro Daniel. Ton analyse de ce match-là?
Écoute, Alex, c'est pas un match nécessairement là, qui va passer à l'histoire du tennis, là, parce qu'on c'est pas un grand match au niveau du... Là. Mais au niveau du spectacle, c'était pas peut-être le match avec le plus d'engouement, mais il en demeure pas moins que Milos Raonic est reparti avec le W, comme on dit dans le milieu, contre Taro Daniel, 6-4. 6-3. Et vous le savez, les gars, Milos Raonic, sa recette, elle n'est pas compliquée. Faire de gros services et raccourcir les échanges. Et c'est ce qu'il a fait contre Taro Daniel. Affrontera donc Mackenzie McDonald au prochain tour. Avait l'air en bonne forme, Milos Raonic, même si c'était peut-être un peu plus compliqué que dans le match contre Francis Tiafoe. Il l'a même dit lui-même en conférence de presse. Il dit, dans le match contre Tiafoe, j'avais l'impression de trouver les solutions plus rapidement, tandis qu'il a dû puiser au fond de ses réserves contre Taro Daniel. Mais quand même, c'est une victoire pour Milos Raonic, les gars. Et je n'aurais pas gagé en début de tournoi que Milos allait faire un troisième tour. Ben, c'est maintenant fait à Toronto.
Nico, tu l'as rencontré en conférence de presse. Je vous propose qu'on écoute quelques extraits de ses commentaires d'après-match.
Yeah, it's good. You know, that match was difficult physically, emotionally on Monday. So to come back today, play a pretty clean match. You know, it counts. It makes a difference today. It'll make a difference for tomorrow as well. So that's something to be happy about. Yeah, I don't think it's really that far off. I think for me, the thing is not showing up playing well one match at a time. But tennis is 11 months, week after week. Like, that's kind of the thing for me where it's given me kind of physical issues. It's never been a question so much of level. It's more been like, can I push myself physically to prepare the way I need to be able to play well? And B, when it comes to matches and stuff, can I be able to kind of withstand that load and that physical exertion kind of week in and week out?
Alors, Milos Raonic qui... a parlé, entre autres, du fait qu'il se sentait en santé et que souvent, c'est la longueur de la saison qui était souvent un problème pour lui. Alors, ben là, on sait qu'il n'y aura pas de problème dans le cas de Milos Raonic parce qu'il n'a joué que 5-6 matchs cette saison. Il a été spectaculaire à l'Omnium Banque Nationale. Hugues, je veux t'entendre sur cette performance-là de Milos Raonic.
Bon, écoute, pour moi, c'est rien de moins qu'une renaissance qu'on voit en ce moment du côté de Milos Raonic. Et tout d'un coup, on regarde le tableau et il a une forte possibilité de passer en quart de finale. Donc, il y a Mackenzie McDonald qui rencontre aujourd'hui, qui a fait le travail contre un des favoris, André Rublev. Ben donc, voilà. Ça ouvre un peu le tableau. Milos avait fait le travail de façon admirable contre Francis Tiafoe, 9e favori, 10e mondial. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je comprends le commentaire de Milos qui dit, moi, voyager sur le circuit pendant 40 semaines, les joueurs, on le sait, font entre 20 et 30 tournois par année, c'est très, très taxant, très demandant. Fait que je pense qu'il va réévaluer comment il va se bâtir un calendrier qui ferait du sens pour lui à son âge. Mais il peut continuer sa carrière. Visiblement, il est toujours compétitif au plus haut niveau.
Nico, McDonald vient de battre Karatsev et Rublev. C'est deux gros joueurs. Milos Raonic est une espèce d'histoire Cendrillon. On a deux histoires Cendrillon. Laquelle va se terminer aujourd'hui, selon toi?
J'ai vraiment envie de croire que Miloš va l'emporter, les gars, et pour une seule raison, McDonald a laissé énormément sur le terrain contre André Rublev hier, tandis que Miloš Raonic, même si oui, il faisait chaud, mais il faisait chaud pour tout le monde hier, je pense qu'il s'est plus économisé que son rival du jour. Donc, tu l'as dit, deux gros matchs pour McDonald hier contre Rublev, ça n'a pas été simple, tandis que pour Miloš Raonic hier, même si ça n'a pas été nécessairement un match facile, je pense qu'il est parvenu à s'économiser quelque peu, du moins plus que McDonald. Donc, je pense sur le central aujourd'hui à 12h30 que Raonic parviendra à battre Mackenzie McDonald.
Ah, ils se connaissent un peu, ces deux-là. Ils se sont affrontés deux fois. Ils ont séparé les honneurs des deux premiers duels. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 2018. En fait, leur deux seuls affrontements, c'était en 2018. Alors, ça remonte à un bon petit bout. Hugues,
Pendant que t'es là, Nico, parle-nous un peu. Il y a eu quelques sorties quand même de favoris. Je pense notamment à Tsitsipas qui a perdu contre mon fils. Je sais pas si t'as vu ce match, mais comment tu vois la suite du tableau à Toronto cette semaine?
C'est intéressant parce que je pensais m'y pencher aujourd'hui. Parce qu'on a vu aussi Holgeroen hier qui avait pourtant bien commencé son match, qui est aussi sorti. Rublev, Tsitsipas. Puis je me demandais, les gars, en fait, c'est ma réflexion de la journée, à quel point ce genre de sortie est bonne ou non pour le tennis. C'est-à-dire qu'on le sait, Félix Auger-Aliassime, l'a pris à ses dépens récemment, il n'a plus de match donné. On a beau être un qualifié ou à l'extérieur du top 100, c'est possible de battre un joueur du top 10. Néanmoins, ce que je me demande, pour le spectacle, pour des tournois d'une semaine, comme c'est le cas cette année à Toronto et Montréal, est-ce que c'est bon et vendeur pour le tennis que 3 des 10 meilleurs joueurs tombent dès le premier ou leur deuxième match? J'ai pas la réponse pour le moment, mais je suis en réflexion à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le tennis.
Un peu comme à Montréal, mais bon, t'as toujours Alcaraz et Medvedev dans le tableau, donc on peut toujours compter sur eux.
Complètement, mais Alcaraz, Alex, je sais pas si tu voulais en parler quelque peu, mais ça n'a pas été simple pour Carlos Alcaraz hier contre Ben Shelton. Superbe découverte, je pense, pour beaucoup de gens à Toronto hier, ce Ben Shelton explosif, les gars. Mais puissant, Alcaraz n'a pas caché ses éloges à l'égard de Shelton après la rencontre. Il a dit « C'est le joueur le plus puissant contre qui j'ai joué. » Et venant de Carlos Alcaraz, les gars, c'est pas peu dire.
Ouais, c'est un gars qui a éclos un peu l'année passée, Ben Shelton. C'est un gars qu'on va suivre assurément. Il y a eu quelques autres surprises. Là. Mon fils qui a battu Tsitsipas, Davidovich Fokina qui a battu Zverev, Andy Murray qui a battu Purcell. Oui. Ça aurait été cool de voir un Félix contre un Andy Murray, messieurs. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Andy Murray continue de nous surprendre. Mais Nico, par contre, il y avait un autre Canadien en action que tu as eu aussi l'occasion de voir. Je veux t'entendre sur Diallo contre Deminor. Diallo a encore magnifiquement bien paru contre un des meilleurs joueurs au monde.
Écoute, il s'est tellement, mais tellement bien battu. Et les gars, ce qui est impressionnant de Diallo, c'est que oui, il ne peut pas rivaliser avec l'expérience des autres joueurs sur le circuit, notamment lorsque tu affrontes un 18e mondial comme Alex de Minaur et un 21e comme Daniel Evans la veille. Cependant, en puissance, il peut rivaliser avec tout le monde. Il y a deux choses, moi, qui m'ont impressionné de Gabriel Diallo hier. C'est que même s'il était en situation de balle de match hier, il est monté au filet. Jamais au cours de la rencontre, il n'a été peureux. Jamais il ne s'est caché. C'est un joueur agressif. Il l'a prouvé et j'ai aimé qu'il soit fidèle à son style de jeu, même si le moment était grand. L'autre facteur, c'est à quel point Alex de Minaur retourne toutes les balles. Hier, Diallo jouait contre un mur d'école, les gars, et on sait que le mur gagne toujours. De Minaur, il est impressionnant. On n'en parle pas assez, mais c'est un joueur qui, sur le plan défensif, je pense, peut rivaliser avec n'importe qui. Même Diallo hier en conférence de presse, c'est un peu impuissant de dire « qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Il retourne toutes les balles, il est partout, il les rejoint toutes. Alors oui, belle bataille, mais ça demeure que le défi était grand pour Diallo, mais quand même, il peut quitter Toronto avec le sentiment de l'avoir accompli.
D'ailleurs, on a récolté quelques échos après son match que je vous propose d'écouter.
J'ai un style de jeu assez agressif. Puis, lui, c'est quelqu'un qui a aucun problème à rester proche de la ligne de fond puis essayer de ramener tout. Puis plus tu frappes fort, plus la balle revient vite. Donc c'est sûr que c'est un ajustement à faire. Puis c'est quelque chose qu'il fait extrêmement bien. C'est pour ça qu'il est le classement où il est. Puis c'est pas le genre de joueur qui va descendre 50, 60, même hors du top 100. Il a toujours été constant dans ses résultats. À chaque semaine, il va faire une quart ou une demi. Donc à la fin de la journée, ça montre à quel point il fait bien ce qu'il fait. Et énormément de constance. Donc, en termes d'ajustement, c'est sûr que je dois continuer à peaufiner mon service, continuer à peaufiner ma balle après mon service, puis essayer d'aller chercher un peu plus de constance en fond de terrain, puis améliorer mes volées. Mais globalement, c'était une belle expérience.
Tire beaucoup de positifs de cette expérience-là. Il aura connu, même si ce n'est que deux tours, tout un tournoi, Gabriel Diallo, parce que personne déjà l'attendait au deuxième tour. Hugues, je veux t'entendre sur cette performance-là de ce produit de Tennis Montréal. Ça me fait plaisir de le rappeler.
On va en parler d'ailleurs avec Sébastien Prieur, qui est directeur technique de Tennis Montréal. Demineur quand même 18e mondial. C'est Demineur qui avait sorti Shapovalov à Montréal l'année dernière. Donc, un joueur qui se plaît à faire mal aux joueurs canadiens à la maison. Mais c'est une expérience incroyable que Gabriel Diallo vient de vivre. La victoire la plus importante de sa carrière contre Daniel Evans, un des meilleurs joueurs du circuit en ce moment, qui venait de gagner à Washington en plus. Et il pousse Demineur quand même dans un match très serré, le 6-4-7-5. C'est beaucoup, beaucoup de positifs pour Gabriel Diallo et je pense qu'il passe à la prochaine étape maintenant dans sa première année professionnelle sur le circuit. Donc, bravo Gabriel.
Nico, à Toronto, tu vas garder un œil sur Milos Raonic. J'imagine que tu vas aussi aller faire un tour du côté d'Alcaraz et Hurkacz et Taylor Fritz de Mineur. Il y a beaucoup de bons matchs du côté de Toronto. À Montréal, je vous propose évidemment Leila Fernandez. Je vous rappelle, on va diffuser en direct à BPM Sport. Anthony Marcotte sera à la description en compagnie de moi-même, Alex Réginbal et Hugues Léger. Et ce sera le premier match sur la soirée.
Et je rappelle que nous sommes le podcast numéro 1 au Canada et on fait une percée du côté américain. On rentre dans le top 30 aux États-Unis. Donc, le podcast rayonne de plus en plus à travers le monde.
Vous voulez nous trouver sur... on est sur toutes les bonnes plateformes de balado et sur tous les médias sociaux potentiels ou possibles que vous connaissez. Nous sommes partout sur la ligne. Et à surveiller à Montréal, Coco Gauff contre Vondroušová, méchant bon match. Stevens contre Rybakina. C'était Alex Réginbal et Hugues Léger. Nico, je te remercie à Toronto. Et sur ce, je vous retourne à Arnaud Gascon-Nadeau.